Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage.
Je suis Tim Lester, je suis le coordinateur du projet Lotus Bus, qui est donc un programme de médecins du monde qui travaille auprès des femmes chinoises qui se prostituent à Paris et en Ile-de-France, dans l'objectif de promouvoir leur accès aux services de santé et aux droits. Donc, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une nouvelle vague de migration chinoise en France et à Paris en particulier. Des femmes chinoises isolées qui venaient pour la plupart du nord de la Chine, d'une province qui a été économiquement assez sinistrée. Donc, des femmes qui ont cherché à quitter leur région, quitter leur pays, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, rester en Chine. Donc ces femmes sont arrivées à Paris. Dans un premier temps, elles ont essayé d'intégrer des emplois au sein de la communauté chinoise qui existait déjà sur place. Donc en tant que nounou, dans des ateliers de couture, dans la restauration. Mais une certaine partie de ces femmes, soit ne trouvant pas d'emploi dans ces secteurs ou constatant que les conditions de travail étaient extrêmement difficiles et très exploitatives, ont fait le choix d'exercer le travail sexuel. Dans l'espoir que, d'une part, en faisant ce travail, elles allaient avoir plus de liberté par rapport aux patrons qui pouvaient les exploiter éventuellement, et d'autre part, dans l'espoir de pouvoir gagner mieux et plus rapidement leur vie, et du coup, réaliser le projet pour lequel elles sont venues. Donc très souvent, la raison principale qu'elles vont citer, c'est pour payer les études de leurs enfants, pouvoir envoyer leurs enfants au lycée, à l'université éventuellement. Mais tout ça, c'est payant en Chine. Ça peut aussi être pour payer des frais médicaux s'il y a une membre de la famille qui est malade. Là, c'est pareil en Chine, sauf pour vraiment les soins de base, il faut payer. Et aussi certaines femmes qui viennent dans l'espoir de mettre à côté un petit pactole pour pouvoir ouvrir un commerce ou une entreprise en Chine. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là qu'elles viennent. Donc à l'époque, Médecins du Monde avait déjà un programme mobile qui travaillait auprès des usagers de drogue. Et c'est d'abord l'équipe de ce programme-là qui a constaté la présence de ces quelques femmes au début dans la rue, qu'on a essayé d'établir un contact avec elles. C'était assez difficile au départ parce qu'elles étaient méfiantes et parce qu'il y avait la barrière de la langue. Ces femmes ne parlaient pas du tout français. Donc on a fait appel à des personnes qui parlaient chinois, quelques chercheurs, etc., qui travaillaient dans la communauté chinoise et qui nous ont aidés du coup, à établir un peu un lien de confiance avec elles. Et ça nous a permis de mieux comprendre leur situation et comprendre leurs besoins éventuels. Donc on a constaté que ces femmes étaient très isolées. Elles venaient seules en France, il y avait peu de liens de solidarité déjà entre les femmes et aussi peu de solidarité au sein de la communauté chinoise. Elles ne viennent pas de les mêmes régions du reste de la communauté chinoise, donc elles n'étaient pas forcément très bien intégrées dans cette communauté chinoise. Elles étaient très peu informées sur leur santé, sur la prévention, sur le VIH, voilà, c'est des choses auxquelles elles ont, des informations auxquelles elles n'ont pas eu accès en Chine. Et c'est des sujets qui sont restés encore assez tabous aussi en Chine. Donc quand elles ont grandi, elles n'avaient pas du tout d'informations là-dessus. C'est des femmes qui n'ont pas d'expérience du travail sexuel dans leur pays. Donc voilà, elles avaient tout à apprendre en fait en arrivant en France. Et on a aussi constaté que ces femmes n'étaient pas du tout en contact avec des associations, ni avec les associations qui travaillaient dans la communauté chinoise, ni avec les associations qui travaillaient depuis longtemps déjà avec d'autres communautés de travailleurs du sexe. Et donc il y avait vraiment besoin de mettre en place un projet spécifique, prenant en compte cette question de la langue, pour pouvoir aider ces femmes à avoir accès à toutes les services de santé auxquels elles avaient besoin et faire valoir leurs droits. Donc c'est la création du Lotus Bus qui a été créée du coup en 2003. On a eu des premières subventions aussi de la ville de Paris en 2004 qui nous a permis de salarier quelqu'un. Et voilà, petit à petit, le projet a grandi. Le nombre de femmes avec lesquelles on travaille a augmenté aussi. Donc on est parti voilà, de quelques dizaines, petites centaines de femmes au début du projet. Aujourd'hui, on travaille avec 1200 femmes tous les ans. Donc les objectifs du projet, c'est vraiment accompagner ces femmes, les aider à réduire au maximum tous les risques auxquels elles sont confrontées dans leur activité, à la fois par rapport à leur santé, mais aussi par rapport à leur sécurité. C'est vraiment les deux principaux risques qu'on a identifiés avec elles, c'est voilà, les risques de transmission des IST ou de problématiques de santé gynéco et les problèmes de violence. C'est vraiment les deux majeurs axes de notre travail. Donc on va proposer, donc par rapport à la santé, on propose du matériel de prévention qui est adapté, c'est du matériel qu'on a choisi aussi avec elles pour correspondre au mieux à leurs besoins. On propose des dépistages rapides ou aussi classiques. On a des partenariats avec des CEGID, donc des centres de dépistage, pour leur permettre d'aller se faire dépister. On a beaucoup de partenariats avec des centres de planification familiale ou des hôpitaux qui proposent des services gynéco. Par rapport aux violences, on va travailler à la fois sur la prévention, donc informer les femmes sur les stratégies de prévention qu'elles peuvent mettre en place, essayer de favoriser au maximum le partage aussi entre les personnes, parce que notamment pour les nouvelles arrivantes qui n'ont pas les réflexes pour bien se protéger, leur permettre à des femmes qui sont là depuis déjà un peu plus longtemps, qui ont déjà acquis un certain nombre de stratégies pour pouvoir se protéger, favoriser les échanges pour que ces femmes-là puissent les transmettre ces codes, ces stratégies aux nouvelles arrivantes. On travaille aussi sur la question de la prise en charge et l'accès aux droits pour les femmes qui sont victimes de violences. Tout ça va ensemble parce que malheureusement, ces femmes sont ciblées par des agresseurs qui les ciblent en sachant que c'est des personnes qui sont souvent sans papier, qui ne parlent pas français, donc ils vont avoir beaucoup de mal à aller à la police. Et elles sont ciblées pour cette raison-là. Donc il faut qu'on les aide un maximum à pouvoir faire valoir leurs droits quand elles sont victimes de violences pour briser justement cette cycle vicieux, ce cercle vicieux qui fait qu'elles sont elles sont devenues des cibles privilégiées d'agresseurs. Donc voilà, on accompagne beaucoup de femmes pour déposer plainte, on les accompagne dans les démarches juridiques et petit à petit ce travail-là porte ses fruits aussi. Deuxième objectif du projet, c'est vraiment de promouvoir leur accès à tous les services. Notre souhait, c'est qu'elles puissent avoir un accès aux soins et aux droits comme toute citoyenne. Ça passe déjà par les informer sur tous les services qui existent, sur leurs droits, mais aussi travailler avec les différents services, avec la police, avec les hôpitaux, avec les centres de santé, avec les médecins, pour qu'ils soient sensibilisés aux problématiques de ces femmes et qu'ils ne soient pas dans des positionnements de jugement par rapport à leur activité, parce que ça, c'est un grand frein aussi par rapport à leur accès aux soins et aux droits, c'est les jugements qu'elles peuvent rencontrer de la part des professionnels qui vont les mettre dans la catégorie de la mauvaise femme ou dans la catégorie victime. Et tout ça, c'est des freins en fait pour elles, parce que personne n'a envie d'être jugée, elles ont envie d'être traitées comme tout le monde. Donc il y a voilà, sensibiliser, identifier les endroits un peu sécurisants pour elles, où on sait qu'elles vont pouvoir aller sans craindre d'être jugées ou maltraitées. Donc ça, c'est un deuxième objectif de notre travail. Le troisième objectif, c'est de c'est de faire du plaidoyer, parce que malheureusement, on est témoin dans notre travail avec ces femmes d'un grand nombre d'injustices. On est témoin d'un certain nombre de droits qui sont bafoués. On considère que c'est aussi de notre devoir de témoigner de ces situations, de les dénoncer, avec l'espoir d'améliorer l'environnement dans lequel ces femmes vivent et dans lequel elles travaillent. Donc c'est à la fois à travers des enquêtes ou des entretiens qu'on peut faire avec les femmes pour que tout ce qu'on dit soit vraiment basé dans leur réalité, et ensuite faire entendre cette parole-là auprès des élus, à la fois locaux, nationaux, parfois même là, au niveau européen, et aussi dans la société en général, aussi pour changer le regard de la société envers ces personnes. Et enfin, donc ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, c'est la participation de la communauté dans le projet. Ça, c'est vraiment le quatrième objectif fort de notre projet. On ne souhaite pas être juste là pour travailler pour elles. Enfin, on n'est pas là juste pour leur proposer une aide et des services. On pense que c'est important qu'elles soient véritablement actrices de leur propre situation et aussi de notre projet. Donc on travaille dans une démarche communautaire, ça veut dire que dans notre équipe, il y a des personnes, des travailleuses du sexe chinoises qui participent activement dans notre travail. On essaye au maximum de s'appuyer sur toutes les ressources qui existent dans cette communauté, parce que c'est des femmes qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, et elles ont juste parfois besoin d'avoir un peu de soutien derrière pour... Mais très souvent, elles sont en mesure de trouver des réponses aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et c'est aussi les personnes qui sont le mieux placées pour savoir quelles réponses sont adaptées aux problèmes qu'elles rencontrent. Donc on travaille vraiment dans ces démarches-là, à la fois par rapport à notre propre projet, mais c'est aussi notre souhait d'accompagner les femmes dans la création de leur propre projet. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi en accompagner la création des roses d'acier. Comme c'est souvent le cas, le fait que les roses d'acier, l'idée des roses d'acier, c'est né c'est une réaction à un moment particulièrement difficile. En 2014, dans le quartier de Belleville, il y a eu une répression très intense envers les travailleuses du sexe. 2014, c'était l'année des élections municipales, donc c'est lié, parce que dans les campagnes des élections municipales, la prostitution est devenue un petit peu un sujet. Voilà, c'était un sujet dont les riverains parlaient autour du quartier de Belleville, et dont ils se plaignaient auprès de leurs élus. Et pour montrer qu'ils prenaient cette question au sérieux, il y a eu une vague de répression, avec beaucoup, beaucoup d'arrestations, des femmes qui ont été, beaucoup de femmes renvoyées en garde à vue. Donc c'était la police s'appuyait sur le délit de racolage pour arrêter les femmes, contrôler leur identité, celles qui étaient sans papier, mises en centre de rétention. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines d'arrestations, au point que ça devenait vraiment intenable pour les femmes qui travaillaient sur Belleville. Ça a engendré une augmentation assez importante du nombre de violences. En 2014, justement en plein milieu de cette vague de répression, il y a une femme chinoise qui a été assassinée. Et toutes les femmes qui connaissaient cette femme-là, qui l'ont vue partir ce jour-là avec l'individu qui l'a tuée, nous ont dit que cet individu-là était connu comme étant un mauvais client, et que toutes les femmes refusaient en général d'aller avec lui, mais même la femme qui a été assassinée, en général, elle ne l'acceptait pas. Mais comme ça faisait une semaine que personne n'avait pu travailler, ce jour-là, la police n'est pas venue, et c'était le premier client qui l'a abordé, et elle a accepté. Donc, avec les conséquences, elle a perdu sa vie. Donc voilà, c'était vraiment un moment assez terrible pour les femmes. Et donc, au milieu de tout ça, donc c'était au début de l'été 2014, un groupe de femmes spontanément est venu dans les bureaux de notre association pour mettre tout ça sur la table et discuter avec nous sur comment on peut faire par rapport à cette situation, parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment insupportable. Donc, on les a aidés à rédiger un courrier assez détaillée sur voilà, toutes les situations de répression qu'elle vivait et sur toutes les conséquences que ça engendrait pour elle, qu'on a envoyé à la mairie du 10e, au maire du 10e. On a eu une réponse assez rapide de l'adjoint du maire chargé de la sécurité et de la prévention qui a invité le Lotus Bus et les femmes qui ont rédigé le courrier à venir les rencontrer pour pouvoir évoquer cette situation. C'était déjà, voilà, les femmes étaient déjà très contentes d'avoir cette occasion pour pouvoir s'exprimer directement avec des élus parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'occasion justement de faire entendre leur parole. Et donc elles avaient désigné une dizaine de représentantes, voilà, toutes les femmes de Belleville, elles ont choisi une dizaine de femmes pour aller les représenter au sein de la mairie, et nous on est allés pour assurer l'interprétariat. Et donc lors de cette rencontre, les femmes elles ont voilà, posé tous ces problèmes, les problèmes de violence, expliqué aussi pourquoi elles étaient là, pourquoi c'était, elles n'avaient pas beaucoup d'autres alternatives, parce que voilà, la mairie demandait aussi, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne faites pas quelque chose d'autre, voilà, elles expliquaient, elles se justifiaient en fait, voilà, pourquoi elles étaient amenées à exercer ce travail. Et elles sont allées vraiment dans un esprit de dialogue, parce qu'elles ont bien senti que le problème, la raison pour laquelle elles subissaient cette répression, c'était à cause des plaintes des riverains. Donc elles étaient vraiment allées dans l'objectif de négocier en fait avec la mairie pour savoir comment nous on peut continuer de travailler sans impacter sur la vie des riverains. Donc elles étaient très, très frontales, enfin, très directes, elles ont dit voilà, comment, dites-nous c'est quoi exactement qui gêne et comment on peut faire pour améliorer la situation. Donc elles étaient vraiment dans une perspective de négociation et de médiation avec beaucoup de bonne volonté, peut-être un peu de naïveté. en toute cause, elles ont été entendues et à l'issue de cette rencontre avec la mairie, le représentant de la mairie qui était là a dit pour nous c'était vraiment très intéressant parce que c'est la première fois qu'on on peut discuter directement avec vous. Ce serait très intéressant si vous vous constituez en association pour pouvoir avoir plus de légitimité aussi et pouvoir voilà, vraiment vous revendiquer comme quoi vous êtes des représentants de votre communauté. Comme il y a des associations des gens de tel ou tel pays ou des représentants des commerçants chinois de Belleville ou voilà, il peut y avoir toutes sortes d'associations qui représentent différentes parties de la population voilà, la mairie, et avec lesquelles les mairies va discuter. Et donc la mairie trouvait, après cette rencontre qui était assez cordiale, ce serait intéressant que vous constituiez votre propre association pour qu'on puisse continuer ces échanges en fait. Donc elles ont pris ça en compte. Assez rapidement, après, nous, on a organisé une réunion aussi pour échanger avec les femmes sur cette idée. Si elles créaient une association, ce serait dans quel but, pourquoi faire, comment ça pourrait fonctionner. Donc voilà, elles ont commencé par déjà poser tous les problèmes auxquels elles étaient confrontées, les problèmes spécifiques auxquels les travailleuses du sexe chinois étaient confrontées. Il y a eu pas mal de débats sur est-ce que ça doit être, est-ce qu'on doit créer un syndicat, est-ce qu'on veut aller plus dans un mouvement syndical ou est-ce que ça doit être une association avec des objectifs un peu plus larges, est-ce qu'on doit inclure toutes les femmes, est-ce que c'est que les femmes chinoises, est-ce que c'est que les femmes chinoises qui se prostituent, ou est-ce que c'est toutes les femmes chinoises migrantes. Voilà, donc il y a eu pas mal de débats sur quel était le champ aussi d'action de cette association. Finalement, elles ont décidé sur cette que c'était quand même intéressant d'avoir une association spécifiquement pour les femmes chinoises qui se prostituent, les travailleuses du sexe chinoises, parce qu'elles sont quand même confrontées à des difficultés qui sont... certes, il y a beaucoup de problèmes auxquels elles sont confrontées qui sont pareils pour toutes les migrantes. Mais il y a quand même une spécificité par rapport au travail du sexe qui fait que voilà, elle trouvait que c'était quand même intéressant d'avoir une association spécifiquement pour ces femmes-là. Elle trouvait que c'était pas forcément. Elle voulait pas se limiter uniquement aux formes de syndicat parce que pour elle. Voilà, elles trouvaient qu'elles avaient aussi envie de travailler sur des choses qui pas directement liées à leur travail, enfin, par rapport à la solidarité, les cours de français, organiser des voyages, des activités culturelles. Elles étaient pas forcément dans nos revendications, voilà, par rapport à leur travail. Donc voilà, elles ont suite à cette première réunion, il y a une deuxième réunion, voilà, pour aller plus dans les détails, où elles ont choisi le nom, les Roses d'Acier. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu pas mal de discussions aussi autour du nom de l'association. Les premières suggestions, c'était l'armée rouge féminin. Que voilà, certaines disaient, ouais, il faut trouver un nom vachement fort qui montre qu'on est des femmes fortes et qu'on est prêt à se défendre et tout. D'autres femmes disaient, mais attends, c'est un peu trop rentre dedans, il faut peut-être choisir quelque chose un peu plus neutre. Mais finalement, elles ont choisi cette nom, les Roses d'Acier, qui leur a beaucoup parlé parce que à la fois il y a voilà, l'image de la rose. Donc ça, là, c'est l'image de la belle femme, et Acier, donc voilà, mais quand même une femme qui tient debout, qui est forte, qui résiste. Et ça fait référence, en fait, c'est une chanson populaire que toutes les femmes connaissaient, qui parle aussi, dans les paroles de cette chanson, qui parle de la vie d'une femme qui résiste à plein de difficultés. Et voilà, donc c'est un nom qui a tout de suite recueilli l'unanimité. Et donc ça, c'était à l'automne 2014. La première action qu'elles ont organisée, c'était donc le 17 décembre 2014. Le 17 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe. Et elles ont choisi de se mobiliser à Belleville pour cette journée où elles ont organisé une veillée de la nuit avec des bougies, des prises de parole. Et notamment pour commémorer la femme qui est décédée du coup, plus tôt dans l'année. C'était un événement qui est un grand succès. Enfin, toutes les femmes de Belleville sont venues participer. Il y a eu quelques élus qui sont venus pour participer. Il y a pas mal d'autres associations. Ça a pas mal suscité de l'intérêt aussi de la part des riverains. Que c'était la première fois qu'ils voyaient toutes ces femmes chinoises s'organiser, faire quelque chose dans le public, dans la rue, comme ça. Donc les gens qui passaient, mais vous êtes qui, c'est quoi et donc voilà, les gens de Médecins du Monde qui étaient là aussi, voilà, ont du coup profité pour discuter un peu avec les gens qui passaient pour expliquer que c'était organisé par les Roses d'Acier, qui c'était les Roses d'Acier. Et on voyait qu'il y avait... les réactions des riverains n'étaient pas aussi univoques qu'on aurait pu l'imaginer. Parce que jusqu'à là, on avait toujours cette idée que les riverains étaient très anti les prostituées chinoises. Et c'est toujours là-dessus que la mairie jouait pour justifier les actions répressives. Mais en fait, beaucoup de riverains, en les voyant manifester comme ça dans la rue, avaient une attitude très soutenante. Ils disaient « Ouais, mais c'est vraiment bien que vous vous organisez. » ça m'a fait de la peine quand je vois comment la police vous traite. Je me souviens une femme voilée qui est passée avec ses deux enfants qui a dit à une femme, mais vraiment grâce à vous, comme vous êtes là dans la rue, je me sens plus en sécurité dans le quartier, parce qu'il y a toujours des femmes qui sont là dans la rue. C'est des... voilà, j'ai trahi peut-être les propres préjugés, mais c'est pas forcément une réaction auquel je me serais attendu. Non, donc voilà, c'était vraiment un grand succès, ces premiers événements. Alors au même moment, donc quelques jours plus tôt, il y a eu aussi une réunion à la mairie du 10e qui depuis assez longtemps déjà organise des réunions entre toutes les associations qui travaillent avec les travailleuses du sexe dans le 10e, se réunissent voilà, une ou deux fois par an pour discuter sur voilà, la situation, les partenariats à mettre en place, échanger les informations entre nous. Et donc il y a les associations, il y a quelqu'un de la mairie, il y a aussi quelqu'un du commissariat. Et donc cette réunion est arrivée au mois de décembre. Très naturellement, j'ai proposé à la mairie que les Roses d'Acier soient présentes. Enfin, ça me paraissait normal qu'il y avait cette association, c'est normal qu'elle soit associée avec les autres associations à cette rencontre. Donc elles sont venues. Elles ont pris la parole aussi par rapport à la situation particulière de Belleville, sur ce qu'elles voyaient. Ça s'est assez bien passé, mais dans les jours après, on a eu des appels de certaines élus, disons. C'est vraiment insupportable, c'est intolérable que ces femmes-là soient présentes dans cette réunion. Donc je ne sais pas exactement pourquoi, en quoi leur présence gênait. On a eu différentes versions parce que une excuse qui était donnée, c'est que bah, du coup le commissaire il peut pas parler des opérations de police qui sont en cours parce que ces femmes-là, ouais, on peut. Mais bon, je vois pas pourquoi la commissaire peut parler avec nous, d'autres associations, mais pas avec cette association-là. Enfin, pour moi, je pense que le vrai problème, c'est que ils n'ont pas envie d'associer les personnes concernées, en fait. C'est beaucoup plus facile de parler au nom d'eux que de parler directement avec, malheureusement. Donc ça nous a. C'était le premier élément à ce moment-là où je me suis dit, ah, finalement, ça va peut-être pas être si évident que ça de mettre en place cette association. Et il faut faire attention à comment elle procède parce qu'on voit qu'il y a des résistances. Et moi, naïvement, je me disais, bah, c'est super, une association, tout le monde va se dire que c'est une super chose, tout le monde va vouloir discuter avec elle. C'est l'image que j'avais de la démocratie. Enfin, c'est bien que les gens se parlent, que des populations marginalisées s'auto-organisent. Pour moi, ça ne peut que être bénéfique. Mais ce n'était pas vu comme ça par tout le monde. Voilà, en 2015, donc elles ont continué. Elles ont organisé une grande fête pour le Nouvel An chinois. Au mois de janvier 2015, ça c'était un grand succès aussi. C'était la première fois que voilà, toutes les femmes se sont réunies pour faire une activité festive. Elles ont invité toutes les femmes chinoises des autres quartiers aussi, qui travaillent dans d'autres quartiers. Donc ça créait vraiment des rencontres aussi entre des femmes qui ne se côtoyaient pas du tout. Et c'était un moment très émouvant pour certaines femmes qui étaient en pleurs pendant cette fête, mais de joie, en disant, mais c'est la première fois que depuis que je suis ici que j'ai l'impression d'avoir retrouvé un chez moi, ou d'être l'impression d'être à nouveau en famille, voilà. Donc c'était un moment très très fort pour ces femmes qui ont laissé toute leur famille dans leur pays, qui sont du coup très isolées. Elles ont organisé, elles ont mis en place des ateliers, donc pour des ateliers d'échange d'informations sous forme de petit déjeuner. Donc elles invitaient les femmes à venir prendre le petit déjeuner. Du coup, il y avait des échanges parfois avec des intervenants extérieurs qui pouvaient faire un point sur des droits ou sur une question de santé, et ensuite elles discutaient entre elles. Ça, c'était pas mal une réussite aussi. Elles ont mis en place des cours de français. Donc, elles ont fait venir un professeur français langue étrangère, un professeur formé pour mettre en place des cours, mais du coup, vraiment adapté à leurs besoins en termes de français, parce qu'il y a pas mal d'écoles qui proposent des cours de français. Mais elles avaient du mal à aller dans ces écoles. D'une part parce que parfois elles peuvent être stigmatisées, et d'autre part parce que les horaires n'étaient pas forcément adaptés à leurs horaires de travail, etc. Donc là, elles ont vraiment mis en place des cours adaptés, accessibles pour elles, et avec beaucoup de succès aussi. Elles ont rencontré beaucoup d'élus, des représentants de différentes institutions, d'abord à un niveau local autour de Belleville. Donc elles ont rencontré des associations, certains élus des mairies autour de Belleville. Et Mais là aussi, on a commencé à voir des portes s'ouvrir dans un premier temps, mais très vite se refermer. Par exemple, elles se sont mises assez rapidement en contact avec l'équipe de développement local. Donc en fait, Belleville, c'est un quartier politique de la ville. Et donc il y a une équipe qui dépend de la mairie de Paris, qui est là pour veiller à l'animation de la politique de la ville dans ce quartier, par rapport à la santé, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'emploi. Ils agissent sur plein de terrains. Et c'était des interlocuteurs assez naturels pour une nouvelle association qui vient de se monter. Comment ils pouvaient aider aussi les Roses d'Acier, peut-être à prétendre à des subventions, intégrer des réseaux qui existaient, à trouver des locaux pour leurs activités. Et donc l'équipe était très contente de les rencontrer et elle a commencé à mettre en place des projets avec elle. Et du jour au lendemain, ils m'ont contacté en disant nous, on a eu la consigne de ne pas travailler avec les Roses d'Acier, donc une consigne qui est venue de la mairie de Paris. On peut pas continuer de les accompagner. Donc il y a vraiment eu un consigne qui est venu de la mairie centrale pour faire barrage à cette association. Ça, c'était vraiment c'est plus au niveau des institutions que ça bloquait. Après, les associations locales, ça s'est très bien passé et tout le monde était très content de voir ces femmes s'insérer plus dans la vie du quartier. Elles ont organisé des voyages. Donc depuis 15, elles ont loué deux cars et elles sont parties en Provence pour voir les fleurs de lavandier. Beaucoup de femmes rêvaient de voir ces champs de lavande. Donc elles sont parties là-bas. Je pense que ça s'est super bien passé. Il y a une anecdote par rapport à ça qui est assez drôle. Parce que quelques jours après, nous, on intervenait à Belleville. Et il y a des policiers qui circulaient à proximité de notre bus. On est allé les voir, on avait discuté avec eux. Et ils ont dit « Ah, mais vous savez, maintenant, c'est vraiment... La prostitution devient très organisée dans le quartier. » Et, ah bon, mais comment ça? Ah ouais, maintenant les proxénètes, ils amènent les femmes par quart entier. On les a vus l'autre jour, ils sont arrivés, toute une quart entier de prostituées qui est descendue. En fait, c'était le quart de femmes qui revenaient de leurs vacances en Provence qui revenaient à Belleville. Enfin, c'était totalement fantasmé, mais ils y croyaient Et je pense, cette attitude-là, ça trahit aussi l'attitude que peuvent avoir d'autres institutions qui voyaient, dans la création de cette association. Ils ne pouvaient pas concevoir que ces femmes-là pouvaient vraiment s'organiser toutes seules et créer leur propre association. Pour beaucoup de personnes, je pense que c'est forcément... secondaire, c'est des proxénètes qui veulent avoir la main mise sur la prostitution, ou elles veulent organiser la prostitution à Belleville. Donc il y avait vraiment beaucoup de fantasmes autour de ces femmes, alors que c'était tout simplement des femmes qui s'organisaient pour se défendre elles-mêmes. Mais c'était très difficile, je pense, pour beaucoup de personnes de concevoir ça Donc parce que une prostituée, c'est forcément une victime passive, sans défense. Il y a aussi toute cette imagerie-là derrière qui fait que certaines personnes ne peuvent pas imaginer que ces femmes-là sont en capacité de s'organiser. Qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre? Elles étaient assez impliquées. Donc en 2015, il y a aussi eu tous les débats autour de la pénalisation des clients. Il y a eu plusieurs passages à l'Assemblée nationale et au Sénat de cette loi. Et elles ont participé avec d'autres associations, avec le syndicat du travail sexuel, notamment à des manifestations. Elles ont participé aux manifs le 8 mars pour tous, pour toutes, qui est une manifestation, le 8 mars, donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Il y a eu une manif traditionnelle, mais qui était assez excluante vis-à-vis de certaines femmes minoritaires. Et donc il y a eu cette 8 mars pour tout ce qui voulait justement impliquer les femmes qui ne se sentaient pas à l'aise dans le manif ordinaire. Et donc elles ont participé à ça. Donc il y a eu pas mal de rencontres, des luttes parallèles qui se sont mises ensemble. Elles ont pris la parole aussi au Sénat. Enfin, elles ont été auditionnées dans le cadre de débats autour de la pénalisation des clients. Ce qui était bien parce que finalement, toute cette loi était faite avec en tête les pauvres femmes étrangères victimes, et c'était les seules femmes travailleuses du sexe étrangères qui étaient auditionnées, donc au moins elles ont pu parler. Mais sauf que, voilà, on a vu qu'au Sénat il y avait un grand décalage entre ce qu'elles pouvaient dire et ce que les sénateurs pouvaient comprendre leur situation. Donc elles ont pris la parole. Et alors elles ont expliqué leur parcours, comment elles sont arrivées ici, comment elles ont choisi cette activité, les difficultés auxquelles elles étaient confrontées, en quoi la pénalisation des clients craignait voir un impact négatif sur elles. Et à la fin de tout ça, donc une sénatrice d'une ville bourgeoise de province qui prend la parole en disant « Mais franchement, mesdames, je ne comprends pas comment se fait-il que vous êtes aussi insouciantes que vous partez de votre pays pour venir en France sans même avoir un contrat de travail, sans même parler la langue française. Mais pourquoi vous ne faites pas comme nos jeunes diplômés que quand ils partent à l'étranger, ils ont déjà un contrat de travail. Donc en fait, il y avait un décalage total où elle pensait à des expatriés français qui pouvaient partir travailler pour Total ou je ne sais qui dans un autre pays, et des migrantes économiques qui viennent travailler en France sans papier. Enfin, tu voyais qu'elle était sur une autre planète. Enfin, elle pouvait pas du tout comprendre la situation de ces femmes. Donc il y avait quand même un décalage assez important. Je suis pas sûr que lorsqu'elles ont dit a vraiment été prise en compte. Enfin non, je suis sûr que ça n'a pas été prise en compte parce que la loi est passée. Qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre en 2015? Ah oui, ça c'est vachement bien. Elles ont voulu, comme elles voulaient toujours travailler sur cette question de comment elles étaient perçues dans le quartier et comment elles pouvaient améliorer leur lien avec les riverains, elles ont plusieurs fois elles ont mené des activités que moi j'ai trouvé vraiment très inspirées de balayage du quartier. Donc elles ont acheté une cinquantaine de balais et de pelles, et elles ont invité toutes les travailleuses du sexe à venir pendant l'après-midi balayer les rues. Et le slogan de cette action, c'était « rendre Belleville plus belle ». Et ce qu'elles voulaient démontrer par cette action, c'était que, d'une part que c'est des femmes responsables, qui sont impliquées dans le vie de leur quartier, qui se soucient aussi du bien-être et du vivre ensemble dans le quartier. Donc elles ont organisé cette activité de balayage pour changer le regard en fait que les riverains pouvaient avoir sur elles, et ça c'était vraiment un succès. Enfin, ça a suscité beaucoup d'intérêt aussi de la part des riverains qui disaient oh, mais c'est vraiment super, moi aussi. Et donc d'autres, même des voisins parfois allaient chercher le balai chez eux pour venir balayer avec elles, et en plus c'est vrai qu'une fois qu'elles avaient balayé, le quartier était effectivement plus propre. Et ce qu'elle elle voulait montrer que c'est ce que beaucoup de gens, c'est des choses qu'on peut entendre parfois dans des réunions publiques, etc., autour de la prostitution. Ah, les prostituées, elles sont sales, elles rendent le quartier sale. Voilà, elle voulait montrer non, en fait, on participe aussi à rendre un quartier plus belle. Donc ça, c'était un super action. Leur création de cette association a suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias, donc elles étaient pas mal. Il y a eu des articles dans Le Parisien, dans Libé, dans Le Monde, parfois des reportages télé. Les médias, vraiment sont beaucoup intéressés à elles. Ça, c'était assez difficile pour elles à gérer. Elles s'attendaient pas du tout à cet intérêt. Elles étaient vraiment dans un combat très local. Pour leur communauté, elles ne s'attendaient pas à avoir cette résonance comme ça, plus large. C'était aussi difficile parce que l'exposition médiatique était difficile parce qu'elles n'ont pas du tout envie que leurs proches en Chine sachent qu'elles sont travailleuses du sexe. Et que les images, voilà, ça reste. Donc c'est que même quand tu arrêtes, s'il y a une image de toi sur un article en disant à travers du sexe, ben voilà, le stigma reste avec toi. Donc c'était très difficile aussi de gérer ça. Et aussi les médias étaient très curieux, avaient parfois une curiosité un peu malsain, et qui n'étaient pas forcément intéressés à ce qu'elles pouvaient dire de général ou de plus politique, et étaient plus intéressés par « mais parle-moi de toi, de ta famille », ta vie intime en fait. Et c'était pas ça, elles avaient pas envie, elles parlaient au nom d'une communauté, elles prenaient pas la parole à titre individuel, donc il y avait toujours cette tension là et donc c'était une année avec beaucoup de choses très riches. Je pense que les femmes qui ont vraiment beaucoup milité pour tout ça, elles ont appris énormément de choses, ça leur a ouvert beaucoup de portes, de pouvoir être entendu au Sénat, c'est des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées. Ça a pris beaucoup d'énergie. Elles voyaient aussi le succès, au moins en termes locaux, par rapport aux liens qu'ils pouvaient avoir entre les femmes. Vraiment, il y a eu de plus en plus de liens de solidarité entre les femmes. Après, arrivé en 2016, le passage de la loi en avril, ça a pas mal démoralisé, à vrai dire, les Roses d'Acier, parce qu'elles se sont beaucoup battues contre cette loi, et tout de suite après, elles ont vu les effets. Elles trouvaient que c'était tellement hypocrite, cette loi, d'autant plus annoncée comme quelque chose qui va les sauver, ces fameux parcours de sortie de la prostitution qui n'existent pas, encore pas. Mais la pénalisation des clients, dès le lendemain, elles avaient quasiment plus de clients. Donc vraiment, elles se demandaient, mais comment je vais payer mon loyer? Comment je vais continuer d'envoyer mon enfant à l'école? Donc ça a eu un grand impact sur elles, parce que d'une part, elles n'avaient pas le temps de continuer la mobilisation associative, parce qu'il fallait il fallait travailler tout le temps, en fait. Comme il y avait très très peu de clients, ils ne pouvaient pas se permettre d'investir beaucoup de temps dans l'association. Les tarifs ont baissé, donc même les quelques clients qu'elles ont, elles gagnent moins. Elles sont obligées de travailler plus tard la nuit, parce que les clients ont peur de venir en journée quand il y a la police. Et surtout, elles espéraient qu'au moins, avec cette loi, elles allaient arrêter d'être la cible de la police. Normalement, la police, maintenant, ils doivent se préoccuper des clients, et pas d'elles. Sauf que dans les jours qui ont suivi le vote de la loi, la police à Belleville a commencé une opération de répression envers les travailleuses du sexe, non plus avec le délit de racolage, mais avec des contrôles d'identité, mais à répétition, parfois plusieurs fois par jour, tous les jours, avec beaucoup, beaucoup de femmes sans papier qui ont été contrôlées et envoyées en centre de rétention. Donc elle disait, en fait, c'est pire. Non seulement on n'a plus de clients, mais en plus on a une répression policière qui est encore plus forte qu'avant. Donc vraiment, elles avaient l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule. Malheureusement, depuis avril l'année dernière, il y a de plus en plus de femmes qui sont victimes de violences. Des femmes qui... certaines qui sont vraiment au bout du rouleau, en fait. Elles sont fatiguées, elles ne peuvent plus prendre le temps de prendre soin d'elles-mêmes. Elles travaillent encore plus qu'auparavant pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc le bilan est assez catastrophique, en fait. Et le maigre espoir qu'elles avaient dans cet parcours de sortie, avec la promesse éventuellement de pouvoir avoir des papiers, ce n'est que du vent, parce qu'aujourd'hui, ce parcours n'existe pas. Et il n'y a aucune personne qui a pu avoir un titre de séjour dans le cadre de ce parcours de sortie. Donc elles ont l'impression d'être vraiment pris entre l'écume et le marteau.